La muse du jour, bonjour. Nous allons encore une fois parler de la connivence qu'il pourrait y avoir entre la musique et les professionnels de santé. Vous êtes curieux? Eh bien, nous allons accueillir tout de suite notre invité. Alors, hop, c'est parti pour les jingles. Bonjour, muse.
Bonjour, Lionel.
Voilà, alors, je vous présente la chose, les auditeurs ont l'habitude. Donc, moi, je fais partie de la brigade musicale. C'est une brigade tout à fait pacifique, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, je vais vous demander de décliner votre nom et votre activité, s'il vous plaît.
Alors, je suis Stéphane Guétin et chercheur dans le domaine de la musique et des neurosciences.
Ok, entendu. Et vous êtes là aussi parce que vous représentez aussi une appli qui s'appelle MusicCare, n'est-ce pas?
Oui, je suis aussi tout à fait le fondateur de l'application numérique de santé MusicCare.
Alors justement, donc nous, dans la Muse du jour, on est intrigués par cette appli parce que ici nous traitons de la musique dans la société et nous avons déjà reçu un neurochirurgien et aussi une musicothérapeute qui nous ont expliqué ce qui se passait dans le cerveau avec la musique et pourquoi on s'en servait aussi des musicothérapeutes pour différentes pathologies qui sont l'aphasie, l'Alzheimer, etc. Et donc, on a eu vent de votre appli, puis on aimerait bien que vous nous expliquiez un peu plus à quoi sert votre appli, s'il vous plaît.
Et avec plaisir, Lionel. Notre application, elle est utilisée dans le cadre de la prise en charge de la gestion de la douleur et des composantes émotionnelles liées à cette douleur, et notamment sur l'anxiété, la dépression, les troubles de l'humeur, les troubles du comportement aussi chez les patients Alzheimer, mais surtout aussi sur la réduction des consommations médicamenteuses.
D'accord. Et donc ça veut dire qu'en utilisant votre appli, on fait justement l'économie d'utiliser plus de médicaments, peut-être comme des anxiolytiques, etc.
Exactement, c'est un exemple parfait puisqu'une de nos premières études qu'on avait faite au CHU de Montpellier dans le cadre d'une prise en charge de l'intégration de MusicCare dans la prise en charge de la douleur dans un centre antidouleur, cette première étude clinique, ce qu'on appelle contrôlée et randomisée, c'est vraiment la même méthodologie d'évaluation qu'on utilise pour évaluer l'impact d'un médicament. Les résultats de cette étude nous ont permis d'observer justement une baisse significative des consommations de psychotropes, dont les anxiolytiques et les antidépresseurs, et ce de façon significative, puisque dans le groupe MusicCare, les patients qui en ont bénéficié voyaient leur consommation d'anxiolytiques baisser de plus de 50% par rapport au groupe contrôle qui, lui, ne bénéficiait pas de MusicCare.
Ah, c'est énorme déjà, 50%.
Alors ça, c'est des résultats assez impressionnants, mais on a encore des résultats beaucoup plus impressionnants qui viennent de sortir, qui ont été publiés par l'hôpital Cochin, donc du réseau APHP, les hôpitaux de Paris, publics de Paris, qui viennent de publier une étude qui était rentrée dans le cadre de ce qu'on appelle d'un PHRIP, donc d'un projet hospitalier de recherche en soins infirmiers. Ça veut dire que c'est financé par le ministère de la Santé, par le service de la DGOS, donc c'est la Direction Générale de l'Organisation des Soins. C'est une étude qui a concerné 310 patients hospitalisés en cours d'une chirurgie de la cataracte, donc opération des yeux. Et dans cette étude contrôlée, randomisée, ça veut dire qu'il y a un groupe contrôle, 155 patients sur 310 qui ont eu MusicCare pendant l'opération et 155 patients qui n'ont pas eu MusicCare pendant la même opération. Et dans cette étude, on s'aperçoit que 53% des patients du groupe contrôle ont une complication, c'est-à-dire tachycardie, poussée hypertensive. 53% ont fait une complication, alors que dans le groupe MusicCare, que 13% sur 155 ont fait une complication, ce qui est donc une différence très significative. Et pour répondre à cette complication, pour revenir sur nos consommations médicamenteuses, il a fallu 0,5 mg de sédatif pour calmer les patients dans le groupe contrôle, donc 0,5 mg, et versus 0,04 mg dans le groupe MusicCare, ce qui représente en fait 13 fois moins de sédatifs dans le groupe de patients qui ont bénéficié de la musique, soit 92% en moins que par rapport au groupe contrôle. Donc c'est des résultats hyper impressionnants. Et on espère, grâce à cette étude notamment, pouvoir aller communiquer auprès des instances réglementaires publiques comme la HAS, la Haute Autorité de Santé, pour vraiment faire reconnaître l'utilisation de la musique associée en complément aux soins courants délivrés aujourd'hui dans les hôpitaux.
Donc ça veut dire forcément moins d'effets secondaires du coup.
Il y a moins de... Exactement, c'est tout à fait très pertinent. C'est une récupération plus rapide puisque le patient a moins d'effets secondaires, il récupère plus facilement et donc même c'est une sortie d'hospitalisation plus rapide, ce qui représente des intérêts médico-économiques majeurs et qui ont déjà été démontrés notamment dans les services de réanimation par des grosses études publiées au niveau international. Dans notre étude, il y a eu une différence à tendance significative sur même la durée de l'acte chirurgical. On s'aperçoit que dans le groupe Music Care, le temps de la chirurgie a été justement un petit peu plus courte que le groupe contrôle, et ce qui aussi montre un intérêt, encore une fois, médico-économique, puisque ça voudrait dire qu'on pourrait faire plus de chirurgie par jour si le temps est réduit grâce à la musique.
Et excusez-moi, j'ai pas bien compris en fait comment fonctionne cette application. C'est pendant la chirurgie, c'est des gens qui sont pas endormis, je suppose, complètement en tout cas.
Exactement.
Et on met de la musique, c'est ça, via une application?
Alors exactement, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé de la description de du protocole. Et qu'est-ce que c'est que Musicaire, l'application? C'est en fait tout notre travail est basé sur le développement d'algorithmes de composition musicale pour traiter la douleur et l'anxiété. Donc effectivement, c'est une technique qui est basée sur de l'écoute musicale. Au bloc opératoire, on va principalement utiliser un casque, donc une application téléchargée sur une tablette ou sur un téléphone portable. Mais à l'hôpital, on préconisera la tablette. Un casque de type fermé, qui isole du bruit extérieur, donc un peu un casque de haute qualité. Et ensuite, tout le protocole va être basé sur un soin qui est basé, centré sur le patient, donc sur sa culture, sur ses goûts. Ça, c'est le critère principal de réussite et c'est tout notre travail de recherche qu'on mène depuis plus de 20 ans avec des services de neurologie des équipes INSERM, puisque je suis en fait, avant d'être le fondateur de Musicaire, un chercheur donc avec un doctorat de psychologie clinique rattaché à l'Université Paris 5 et aussi musicothérapeute, donc qui représente 3 ans d'études en plus. Et suite à tout ce travail, justement cette formation de chercheur, avant de développer Musicaire, on a fait ce qu'on appelle une revue de la littérature scientifique. Donc on a analysé toutes les études au niveau international sur le sujet de la musique et de la douleur pour pouvoir identifier ce qu'on appelle les facteurs principaux de réussite. Quel type de musique va être le plus efficace sur la douleur? Quel type de fréquence? Quelle est la durée? Est-ce qu'on fait écouter juste 5 minutes de la musique à un patient? Est-ce qu'on lui met de la radio? Est-ce que c'est mieux de l'écouter au casque? Est-ce qu'on peut utiliser n'importe quelle musique, comme du rock ou de la musique classique, comme on pourrait croire que la musique classique soulage? Mais finalement, il y a des facteurs très spécifiques qui ont été identifiés. Et un des principaux, c'est de choisir la musique en fonction des goûts du patient. Donc effectivement, l'effet, ce qu'on appelle l'effet Mozart, a été quand même plusieurs fois démenti contredit, je veux dire, dans la littérature scientifique, puisqu'on s'aperçoit qu'une personne de culture indienne ou africaine ou quelqu'un qui a une culture très hip-hop ou rap,
ouais, va pas être réceptive, quoi.
Exactement, à la musique classique, vous pouvez pas lui faire écouter la petite sonate de piano de Mozart. Au contraire, ça risque même de l'hériter.
Est-ce que vous pensez aussi à l'époque, on parlait beaucoup de Tomatis, des effets justement de Mozart. Est-ce que vous faites référence à ça ou...
Alors pas que à ça. Effectivement, Tomatis a encore une voix un petit peu différente, puisque Tomatis lui va utiliser des filtres dans sa méthode qui sont supposés représenter les filtres que la maman, comment le bébé, le fœtus entend la musique à travers justement tous les organes et le filtre de la peau. Donc c'est vraiment encore une méthode lui plus spécifique qui fait appel plus à un aspect un peu plus psychothérapeutique, j'allais dire. Mais D'accord. C'est vrai que moi je pense, j'ai étudié un petit peu Tomatis, je connais, je pense qu'il y aurait encore plus d'efficacité si la musique était adaptée en fonction de la culture, puisque toutes les mamans n'ont pas forcément écouté du Mozart pendant cette période de grossesse. Et je pense que l'utilisation de ces mêmes filtres utilisés par Tomatis adaptés à la culture pourrait être encore plus efficace. Mais bon, ça, c'est vraiment qu'un avis très subjectif. Il faudrait faire des études pour le confirmer. Mais en tout cas, dans le traitement de la douleur, ça, on le sait, que la musique classique va être très efficace pour certaines personnes chez qui ça va stimuler tout simplement les zones de récompense, de plaisir. Le secret de la musique dans le traitement de la douleur, c'est d'aller stimuler des zones de récompense du cerveau pour aller stimuler des neurotransmetteurs naturels comme la dopamine ou les endorphines ou même l'ocytocine, ce qui va vraiment créer favoriser la relation sociale et le lien entre le soignant et le patient. Et tous ces neurotransmetteurs vont être stimulés en fonction du plaisir que le patient ressent au niveau physique et même cérébral. Donc une personne qui adore le Slash, le guitariste de Guns N' Roses, et quand il entend une première note, il le reconnaît tout de suite et ça lui donne la chair de poule, bah cette musique va être efficace dans la gestion de la douleur. Par contre, cette même musique, vous le donnez à un spécialiste, à un grand amateur de musique classique de Jean-Sébastien Bach, il ne sera pas du tout réceptif. Au contraire, ça peut l'irriter. Et dans ce cas-là, ça peut même avoir un effet inverse. Donc, le style de musique adapté au patient est vraiment un des facteurs critères de réussite principale. Mais ce n'est pas uniquement le style. Ça va être le volume aussi. Ça va être les fréquences. En fonction que la musique est enregistrée sur des fréquences plutôt basses, on va savoir tendance plus à un endormissement pour arriver plus facilement à un état modifié de conscience et de relaxation, tandis que si vous mettez des sons trop aigus, ça va avoir tendance plutôt à exciter. Et un autre facteur principal aussi de réussite, c'est le tempo, puisque dans la prise en charge de la douleur et de pouvoir, l'objectif thérapeutique, nous, avec Musicaire, c'est d'amener le patient à un état de sédation, à un endormissement, pour réduire justement ses consommations médicamenteuses, sédatives ou même post-opératoire, donc la morphine. Et c'est pour ça qu'en particulier, on a développé un protocole standardisé et reproductible qui se cale et qui prend en compte toutes ces recommandations scientifiques. Et tout notre protocole est basé tout d'abord sur une technique de musicothérapie qui avait été développée dans les années 70, sauf que nous, on l'a vraiment évaluée, standardisée et adaptée en fonction de nos résultats de recherche clinique. Et en fait, on s'est basé sur un principe, ce qu'on appelle une séquence en U, qui va durer principalement une vingtaine de minutes et qui va être calqué quelque part sur tous les principes qu'on retrouve aujourd'hui dans les techniques de relaxation de type sophrologie ou hypnoanalgésie. Donc toutes ces techniques de sophrologie ou d'hypnose sont basées sur une suggestion verbale. Cette suggestion verbale a pour objectif d'amener de façon progressive le patient à un état modifié de conscience.
Donc la musique, l'hypnose, tout ça, pardon, la musique, l'hypnose, tout ça, c'est pour donc effectivement le rendre dans un état avec lequel on aurait pu comment dire, utiliser les mêmes moyens avec des médicaments.
Exactement, ça va permettre de réduire les consommations médicamenteuses et d'arriver sur une vraie complémentarité.
D'accord.
Entendu. Et est-ce que vous pensez que l'utilisation de Musicaire, ça peut être probant pour n'importe quel service dans l'hôpital? Ou il y a vraiment des services prépondérants à cette utilisation?
Bah, c'est assez intéressant. Et on a des applications très diverses et variées. Et c'est vrai que la musique peut être utilisée bah, principalement sur les troubles émotionnels, notamment donc l'anxiété, le stress. Et ça, ce sont des symptômes qu'on retrouve de façon très transversale dans un hôpital. Donc aujourd'hui, on a certains hôpitaux, on a plus de le record qu'on ait, c'est-à-dire c'est l'hôpital de Nouméa en Nouvelle-Calédonie où ils ont développé Musicaire sur l'ensemble des terminaux multimédia des chambres des patients. C'est-à-dire qu'il y a 630 chambres équipées de Musicaire et qui passent justement de la pédiatrie en passant par l'anesthésie réanimation, l'oncologie, les soins palliatifs, les centres antidouleurs et jusqu'à la gériatrie, en passant encore même par la stomatologie, la chirurgie et tous les services hospitaliers. Aujourd'hui, en termes de recherche clinique, ce qui est intéressant avec notre application Musicaire, c'est qu'en plus de délivrer cette technique, cette intervention musicale pour soulager les patients avec des protocoles très spécifiques et étudiés, on a tout un système de récupération de la data et de suivi des patients. Donc le patient va pouvoir évaluer son niveau de douleur avant et après chacune des séances musicales délivrées par l'application. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'être les auteurs, grâce à toutes ces données qu'on récupère par milliers et par milliers, puisqu'on a à peu près plus de 300 000 séances qui sont réalisées par an via notre application. On a aujourd'hui des publications dans le domaine de la pédiatrie, dans le domaine, là on a publié les dernières études pour vous donner des exemples, bah, c'est effectivement la chirurgie en ophtalmologie. Là on vient de publier sur le stress et le burn-out des soignants qui sont en service de réanimation. On a publié des résultats très récents en soins palliatifs. sur les enfants adolescents drépanocytaires. Et voilà, donc de façon des catégories très très variées. On a aussi des protocoles en cours chez les médecins généralistes qui prescrivent musicaire pour les troubles du sommeil. Donc il y a des indications et des applications très très larges de la musique.
Alors oui, c'est étonnant, c'est incroyable, et ça veut dire que quand on utilise musical, ce n'est pas seulement au moment de l'opération, c'est-à-dire avant et après, mais il y a tout un protocole qui dure un peu plus longtemps. C'est ça que ça veut dire ?
Alors on a développé effectivement différents algorithmes. Tous les algorithmes et toutes les nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'on développe pour l'application musicaire, sont faites en lien directement avec le service médical, avec les équipes médicales, je veux dire, notamment les médecins anesthésistes ou les infirmières, les aides-soignants et tout le corps médical. Très concrètement, c'est vrai qu'on avait basé notre séquence en U, donc basée sur les principes de l'hypnose avec toutes ces variations des paramètres du son pour vraiment arriver à cette étape modifiée de conscience et de relaxation. Et on a eu des retours d'expérience d'anesthésistes qui nous disaient « bah tiens, monsieur Guettin, votre application musicale c'est très bien, mais moi je suis embêté avec vos séances de 20 minutes puisque mon opération, de temps en temps, peut durer 45 minutes jusqu'à 1h30 pendant certaines chirurgies, notamment d'implants dentaires ou peu importe. » Et donc, on a travaillé sur des algorithmes qui permettent aux soignants, au moment du lancement de la séance, d'allonger le temps de la séance en fonction de la durée des soins. Donc aujourd'hui, notre application permet à un soignant de pouvoir adapter une séance de 15 minutes jusqu'à 90 minutes avec tout un développement, avec une introduction, un développement du milieu, j'allais dire, donc l'état modifié de conscience, puis une phase d'éveil. Où la phase d'éveil, musicalement, elle va être symbolisée par une réintroduction progressive du tempo un peu plus élevé, des percussions, d'une musique un peu plus rythmée et avec des fréquences de plus en plus aiguës. Donc voilà, pour amener progressivement un état de réveil, notamment qu'on va utiliser plus en post-opératoire.
C'est complètement de la musique composée, c'est pas de la musique connue, c'est pas des artistes qu'on connaît.
Alors, c'est des artistes que vous pouvez connaître, mais pas de la musique connue. C'est des artistes connus à qui on demande de composer spécifiquement pour musicaire. Ça, c'est très important comme question.
C'est le batteur l'ancien batteur de Fela qui était dans la partie.
Ah bah ouais, qui était un grand compositeur de soins.
Tony Allen.
Tony Allen, qui était non seulement un grand compositeur de soins avec une relation professionnelle depuis de nombreuses années, et en plus de ça, un grand copain, j'allais dire, parce que je le suivais dans ses tournées. La dernière fois que je l'ai vu, on avait été parti. C'était un grand, grand musicien qui vraiment, il me disait « I'm a trance giver ». Je suis un donneur de trance. Et c'est vrai qu'avec son rythme de batterie, c'était vraiment unique. Et ça, c'est vraiment la spécificité de musicaire. Et ça, les études cliniques le montrent aussi. C'est que la qualité, même la qualité de l'enregistrement est très importante dans le domaine du soin par la musique et de la musicothérapie de façon plus générale. Si vous utilisez des qualités d'enregistrement médiocres, l'effet sera moins bon pour le cerveau et pour le corps que si vous utilisez de la musique où la qualité d'enregistrement est très très bonne, qui reproduit bien toutes les fréquences. Mais en plus de la qualité d'enregistrement, c'est surtout la qualité des musiciens, des artistes. Pour nous, chez Musicaire, c'est vraiment notre matière première. Je veux dire, au même titre qu'un médicament, c'est notre produit actif. Et ça, on est hyper rigoureux sur la qualité de la musique qui, pour nous, est le déclencheur émotionnel. Et cette émotion, c'est ce qui va traiter la peur et l'anxiété. Donc là-dessus, j'allais dire, on ne rigole pas. Et aujourd'hui, là, pour moi, il est 17h. J'ai rendez-vous dans une demi-heure avec le compositeur qui s'appelle Philippe Cohen, qui est le compositeur de Tango. J'ai un trou de mémoire, je suis assez grave.
C'est génial quand même.
Le tango électronique, là, Gotham Project.
Ah oui, c'est pas n'importe qui.
Non, je suis désolé, j'ai perdu son nom, mais voilà, Gotham Project, parce que je connais. Oui. Et donc, avec qui on discute. On est aussi en discussion avec Natacha Atlas, qui a été une grande artiste qui a remporté les victoires de la musique. Donc voilà, on essaie vraiment.
J'ai vu Marc Berthoumieu, l'accordéoniste.
Ah ben bien sûr, Marc Berthoumieu qui a déjà composé pour nous, qui fait partie de notre catalogue, j'allais dire, thérapeutique. On a la chance d'avoir Vin Gordon, qui est aussi un grand copain avec qui je travaille régulièrement, qui est le tromboniste de Bob Marley. Sur tous les albums, si vous écoutez l'album Exodus, Kaya, le fameux Running Away de Bob Marley, si vous écoutez ce morceau, la version album de Highland Records, il y a un beau solo de trombone dessus, et ben c'est notre Vin Gordon. Et qui, en plus de Bob Marley, je vous dis, arrangerait tous les premiers albums de Studio One avec Burning Spear, Israel Vibration et tous les plus grands artistes jamaïcains, en passant par John Holt, Alton Ellis et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment des grands musiciens avec qui on est très, très fiers de travailler et qui, pour nous, ont cette âme musicale qui peuvent être transmises à nos patients. Et pourquoi travailler avec ces grands artistes? C'est surtout aussi c'est qu'il y a un travail, enfin, je veux dire, un effet émotionnel négatif qui peut s'opérer. Si j'utilisais le fameux morceau de Running Away, ou encore plus connu par exemple de No Woman No Cry de Bob Marley, oui, chez un patient en milieu hospitalier, par exemple lors d'un geste invasif comme une extubation chez un patient en réa, sur le moment, les études montrent qu'effectivement, ça va lui détourner l'attention, que ça va lui faire du bien, il prendra sans doute moins de médicaments. Mais par contre, il y aura un effet inverse sur la mémoire et sur l'efficacité. À partir du moment où le patient va retourner chez lui et retomber sur ce morceau par hasard à la radio,
oui,
là, ça va avoir un effet de stress puisque ça va
il va se rappeler.
Ouais. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on travaille vraiment avec de la musique originale, spécifique. Et il y a une autre théorie à laquelle on croit beaucoup, c'est que Bob Marley, pour reprendre cet exemple de No Woman No Cry, quand il a composé ce morceau, il avait dans la tête son histoire personnelle avec Rita, Marley, sa femme, et donc il a écrit tout ce morceau dans cette intention justement de pouvoir, bah, pour lui-même exprimer, extérioriser cette émotion. Quand il a écrit War, il était dans une intention de composer un morceau sur la guerre et la guerre des peuples et le racisme. Donc il y a toujours une intention derrière une composition. Et ce qui nous intéresse chez Musicaire, c'est de mettre ce grand compositeur dans une intention de soigner la douleur et d'apporter de la paix émotionnelle pour ses patients à l'hôpital. Et donc c'est pour ça que notre Tony Allen, notre Vin Gordon, ou Natasha Atlas, ou Gotham Project, voilà, on va leur demander de composer dans cette intention de soigner des patients hospitalisés. Et là aussi, il y a une émotion véhiculée qui est tout à fait spécifique et unique à Musicaire.
Ils sont dans une autre démarche, oui.
Exactement, et une démarche qui les intéresse et auquel ils croient énormément, puisque la plupart de ces grands musiciens sont convaincus et aussi sont devenus des grands compositeurs pour aussi extérioriser une certaine façon de vivre et une croyance en l'art et de pouvoir véhiculer, j'allais dire quelque part tout simplement de l'amour par la musique.
J'allais vous poser une question, mais il y a pas du tout de provocation dans ma question, mais est-ce que ça veut dire qu'on peut se passer de musicothérapeute par exemple?
Non, bah c'est une bonne question, c'est complètement différent. C'est pour ça que depuis le début, je ne parle pas de musicothérapie, mais de musique et neurosciences. Je parle d'intervention musicale à visite thérapeutique. C'est très important, et ça, dans nos articles scientifiques, dans mes conférences, j'en parle de façon très très ouverte. Puisqu'on a des articles, même moi, j'ai publié des articles qui s'appelleraient, par exemple, Effet de la musicothérapie sur la douleur post-opératoire. Et je publie d'autres articles qui seront effets d'une intervention musicale ou musicaire dans la prise en charge de la douleur post-opératoire. Pareil. C'est-à-dire que le terme musicothérapie est vraiment spécifique, réservé quand le soin est délivré par un musicothérapeute qui a une formation vraiment spécifique. Et ça, je l'entends tout à fait. Mais dans la littérature scientifique, on identifie bien, on spécifie bien aussi quand la musique est utilisée par un personnel soignant non musicothérapeute, comme une infirmière, un aide-soignant. Où là, on leur donne à disposition des outils comme Musicaire, où tout est préenregistré et ça nécessite une formation beaucoup plus courte. En tant que musicothérapeute, moi je le suis, je vous dis, j'ai fait ces 3 ans d'études et je suis musicien, il faut être musicien pour être musicothérapeute. J'ai personnellement travaillé 8 ans en maison d'arrêt, donc à Villeneuve-les-Maguelones à l'époque où j'habitais à Montpellier, auprès des mineurs incarcérés. Donc pareil, en France, on a été les premiers à sortir des albums avec des jeunes mineurs en prison. On utilisait une musicothérapie dite active. Donc, en fait, ils enregistraient, on faisait principalement du hip-hop, toujours adapté en fonction des goûts du patient, enfin de la personne. Et là, ils écrivaient des textes, ils enregistraient. J'ai travaillé en tant que musicothérapeute aussi dans des foyers d'accueil médicalisés auprès de traumatisés crâniens, où là, je travaillais plus sur la coordination des mouvements, la rééducation, la mémorisation de mélodies. Mais là, il fallait être musicothérapeute et ça nécessite une formation globale avec, bien sûr, la maîtrise de l'instrument de musique. Mais il y a des outils aujourd'hui, au même titre que l'hypnoanalgésie ou Musicaire, qui sont des outils qui permettent à des soignants, donc il faut être soignant pour l'utiliser, comme une infirmière, un aide-soignant, de pouvoir utiliser un protocole basé sur de l'écoute musicale qui permet d'accompagner une chirurgie ou en post- et préopératoire. Donc, voilà, c'est différent et je pense que Musicaire aussi peut s'adapter à certains contextes là où la musicothérapie, hélas, ne peut pas répondre. Quand il est 2h du matin, vous êtes dans un service de réa, le patient ne peut pas dormir, il a une crise d'anxiété aiguë, une tachycardie. Bah voilà, le musicothérapeute n'est pas forcément là à 3h du matin, et donc ça permettra, mais c'est complémentaire. Les meilleurs
Oui.
projets qu'on a, c'est dans les grands hôpitaux, c'est qu'il y ait MusicCare, donc il y a une technique d'appoint vraiment très spécifique qui permet aux soignants d'utiliser juste cet outil. Mais à côté, si on a un musicothérapeute qui peut être, je veux dire, le référent global et en fonction de certains patients, préconiser des prises en charge plus actives basées sur la pratique et ainsi de suite, et d'autres prises en charge plus basées sur des techniques de relaxation. C'est effectivement le protocole idéal dans un établissement de santé, c'est d'avoir cette complémentarité entre ces techniques.
Et ça veut dire que ma playlist YouTube spécialisée ASMR, elle est déjà démodée?
Ah non, mais c'est des différentes techniques, hein. Moi, je pense que la musique, ça a des infinités de possibilités thérapeutiques. Nous, on s'est spécialisé dans une méthode qui prouve son efficacité dans le cadre de la recherche, mais des techniques basées sur la musique et la musicothérapie, je pense, sont infinies et il y a encore énormément de travaux à faire, hein. Comme la musique préférée des patients, tout à l'heure, je vous disais, dans le cas de la relaxation de la douleur et pour endormir un patient, n'est pas préconisée. Mais par contre, la musique préférée, nous, dans notre protocole, on utilise justement de la musique instrumentale et pas verbale.
Ah oui.
Il ne faut pas qu'il y ait de lyrics pour pas que le patient, justement, déchiffre les paroles et que ça
Et que ça
interfère
teinte un
avec
petit
vraiment
peu.
l'effet modifié de conscience. Par contre, il y a des techniques de musicothérapie ou même d'intervention musicale qui sont basées au contraire sur de la musique avec des stimuli, des tempos très rapides et avec des paroles. Notamment pour stimuler, quand on a comme objectif thérapeutique chez les patients Alzheimer, de stimuler la mémoire et rappel de la vie autobiographique. Là, ça va être le contraire. Là, on va utiliser le morceau de Charles Trenet ou
Ouais, ça
peut-être
appelle
le
à des
fameux The
souvenirs.
Woman No Cry dont on a repris tout à l'heure pour justement stimuler le souvenir émotionnel, le souvenir autobiographique et la mémoire. Donc voilà, ça va dépendre en fonction de chaque indication. Et ça, c'est le travail du musicothérapeute. C'est pourquoi on est formé. En fonction des troubles, des objectifs thérapeutiques, on va aller chercher une technique qui puisse répondre à ces objectifs.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir nous dire quel est le tube qui nous détend le plus?
Non, j'ai hélas pas encore la réponse. Je cherche depuis 20 ans, mais je ne l'ai pas retrouvée.
D'accord. Et est-ce que ça veut comment ça se passe en France pour nous? Est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui l'utilisent votre protocole, votre appli?
Alors oui, notre application, on est en croissance, en vraiment exponentielle, en développement. Là, cette année, en période Covid, on a la chance d'avoir collaboré et permis d'accompagner tout l'ensemble des établissements, les EHPAD, les résidences autonomie, notamment de tous les établissements de la Croix-Rouge française, ce qui a représenté un déploiement de plus de 200, même 300 tablettes en tout pour les soignants à destination des patients. Et on a aussi des études aujourd'hui qui nous permettent d'accéder a priori, enfin de pouvoir monter un dossier pour le soumettre notamment aux autres autorités de santé françaises pour évaluer, voir la possibilité d'un éventuel remboursement et prise en charge par la sécurité sociale. Donc il y a vraiment un travail de développement, de recherche, ça ne se fait pas comme ça et que uniquement avec MusicCare, c'est vraiment un travail d'ensemble avec différents partenaires. Mais aujourd'hui, en tout cas, MusicCare, pour répondre à votre question, on est dans près de 400 établissements de santé, dont les plus grosses références françaises, hein, la PHP, je vous dis les Croix-Rouges françaises, les grands groupes, et de nombreux centres hospitaliers, universitaires et CH, hein, l'hôpital de Montpellier, la PHP, enfin, énormément de CHU.
D'accord. Et si je veux utiliser votre appli, c'est que c'est pas le Quidam, c'est un professionnel de santé qui utilise votre appli, évidemment.
Exactement. Aujourd'hui, c'est pas du tout grand public. On peut pas la télécharger. Elle est exclusivement réservée aux établissements de santé. Et ensuite, de l'hôpital peut prescrire. Il y a un système, un algorithme, un système informatique qui permet aux soignants de l'hôpital de prescrire directement MusicCare à leurs patients. Donc, le patient qui aura bénéficié de MusicCare à l'hôpital pourra continuer à domicile via le téléchargement de son application.
Ah, d'accord. Donc il y a un suivi aussi après pour le patient avec l'appli.
Exactement, voilà, le patient chez qui à qui ça a été prescrit peut continuer à domicile. Donc notamment dans le cadre de prise en charge principalement de douleurs chroniques.
Et généralement, c'est une durée de combien de temps en moyenne, hein. Je comprends bien qu'en fonction de la pathologie du patient, etc., ça doit varier. Mais en moyenne, ça serait quoi le suivi pour un patient post-opératoire?
Ah bah non, bah ça dépend. En général, nous, on a un protocole où le patient peut en bénéficier pendant un mois de façon automatique. Après, c'est à lui de décider s'il continue à le prendre en charge. Et ça, il y a de tout. Il y a des patients qui vont l'utiliser pendant 6 mois, 3 mois, et il y a des patients qui l'utilisent depuis plusieurs années, hein, en fait. Donc, dans le cas de douleurs chroniques, ils sont vraiment appropriés l'outil et qui l'utilisent comme un rituel tous les soirs avant de s'endormir, par exemple, ils l'utilisent. Et je ne vais pas parler d'une forme de dépendance, mais on a souvent des appels pour une raison X ou Y, s'ils n'arrivent pas à télécharger l'application, s'il y a le bug ou s'il y a un problème technique moindre, ils nous appellent en disant. On a déjà eu des cas assez impressionnants, hein, de patients qui disent c'est pas possible, comment je vais faire ce soir, vous devez me le remettre tout de suite. Vraiment pas s'en passer. Et ça paraît logique, hein, vu les études aujourd'hui qui montrent que la musique, à partir du moment où elle fait vraiment du bien, stimule la dopamine, il y a une forme de manque qui peut s'opérer. Et enfin, c'est pas du tout sur la voie sur laquelle on essaie d'aller, mais on préfère d'ailleurs que les patients soient dépendants à une écoute musicale qu'à un médicament, hein. Donc
Bah,
après, ça se compense, c'est comme le sport, hein. Il y a des gens qui sont un peu, j'allais dire, pas drogués au sport, mais c'est vraiment une dépendance. Quand vous avez l'habitude d'aller courir tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a des patients qui ressentent un manque.
c'est
Et pour la
l'industrie du
musique,
médic
c'est
c'est
pareil.
l'industrie du médicament, elle doit pas être très contente de votre application.
Attendez, je vais répondre à la première question. Enfin, l'industrie du médicament, bah, je pense qu'elle y trouve des intérêts aujourd'hui. On a des partenariats, nous, avec des laboratoires, en fait, pour tout vous dire, notamment pour travailler sur cette complémentarité. Il y a différents intérêts. Ils s'intéressent énormément à ce qu'on appelle aujourd'hui les DTX, les Digital Therapeutics. Donc, en fait, les laboratoires s'aperçoivent aujourd'hui qu'il y a vraiment un développement et une efficacité qui se situe autour de ces traitements digitaux, qui passent par du numérique. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, bah, il y a un intérêt pour eux, même s'il y a des baisses des consommations médicamenteuses, ils peuvent nous aider, notamment comme des sociétés comme Musicaire, à nous développer et dans ce cas-là, mettre en place des partenariats pour qu'eux aussi puissent y avoir un intérêt de développement et de complémentarité. Puisque d'abord, aujourd'hui, le labo, d'après les études, ils s'aperçoivent même dans la prise en charge de la douleur, par exemple, que même sur prescription 1, que les médecins prescrivent de moins en moins d'antidouleurs parce qu'ils savent qu'il y a des effets secondaires de plus en plus importants. Et deux, même quand le médecin prescrit un antidouleur au patient, le patient le prend pas tout le temps. Il va même par lui-même, le patient, aller chercher d'autres solutions non pharmacologiques parce qu'il est au courant que prendre des opioïdes de façon régulière, c'est très grave pour la santé. Donc aujourd'hui, les labos sont dans une problématique qui est logique, hein, et qui s'observe et qui est validée par de la recherche. Donc même le labo s'intéresse à des solutions comme les nôtres pour pouvoir bah, proposer une solution plus globale aux patients. Donc je pense que ça serait logique que les labos, effectivement, puissent s'emparer quelque part de toutes ces techniques et qu'on puisse travailler en collaboration. C'est fondamental. D'abord, aujourd'hui, on le montre, et nous, même nous, on sait très bien qu'avec la musicaire, on ne va pas supprimer le médicament. Il y a des patients chez qui ça ne marchera pas du tout, il y a des patients chez qui ça marchera même très bien, donc ils arrêteront complètement de la prise médicamenteuse. Mais c'est toujours un équilibre entre les deux, et le but, c'est de savoir travailler en complémentarité et pouvoir étudier par la recherche, justement, quelle est la dose complémentaire idéale pour pouvoir soulager au mieux le patient en réduisant au maximum les risques secondaires liés à la pharmaco.
Est-ce qu'il arrive que vous tombiez sur des patients qui ne désirent pas du tout écouter de musique? Est-ce que c'est possible? Ça, par exemple, des gens qui ne supporteraient pas d'avoir du son dans les oreilles avant l'opération?
Oui, on a différents cas. Il y a des gens, effectivement, aujourd'hui, vu que c'est pas encore, c'est très innovant, donc ils peuvent être sceptiques, qui vous disent, ah bah ben non, moi je suis pas à l'hôpital pour écouter de la musique, donnez-moi mon médicament, je n'y crois pas. Mais là, c'est impressionnant. Et effectivement, même sur notre site, on a beaucoup de témoignages comme ça. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir été assez médiatisé sur TF1 ou Complément d'enquête, Magazine de la Santé. Et il y a beaucoup de témoignages, hein, notamment ensuite dans Complément d'enquête, un patient qui dit, ah bah moi j'y croyais pas du tout, l'hypnose c'est pas du tout pour moi. Finalement j'ai quand même essayé parce que j'avais rien à craindre. Et à la fin de la séance, il dit, ah bah franchement je suis bluffé. Il dit lui-même, c'est comme une hypnose, j'ai rien vu passer, j'ai rien senti du tout. Et donc il y a vraiment ces cas où les gens au début sont sceptiques, mais finalement, ça marche de façon très, très efficace. Et ensuite, des patients qui refusent catégoriquement, c'est quand même assez rare. C'est même très, très rare. Je veux dire, j'allais dire 2-3%, pas plus que ça. Et selon nos statistiques, une des premières études qu'on avait faites dans la lombalgie chronique, on avait quand même 75% dès la première séance qui avaient vu leur niveau de douleur s'abaisser. Au niveau de la deuxième, on passe à 82%, ainsi de suite. Et au niveau de la quatrième séance, je crois qu'on était à 92% des patients qui avaient vu leur niveau de douleur s'abaisser. C'est-à-dire qu'en moyenne, ça marche dans la lombalgie chronique chez 9 patients sur 10. En réanimation, c'est des services beaucoup plus complexes avec des niveaux d'anxiété très, très élevés. J'allais dire, on est autour de entre 70 et 80% de taux de réussite. Donc, en moyenne générale, tous services confondus, on est en moyenne sur à 80% des patients chez qui on aura vraiment un effet sur la douleur. Donc, encore une fois, c'est pas la panacée, mais c'est un peu comme le médicament. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 100% de réussite, mais on a des taux de réussite qui sont significatifs et qui sont quand même assez impressionnants en vu le rapport médico-économique que cette solution peut apporter, hein, sans aucun effet secondaire et aucun problème pour le patient. Ouais.
Non, mais de toute façon, vous savez, vous rajoutez beaucoup d'eau à mon moulin, enfin, j'ai l'air comme ça, mais c'est parce que le but de mon émission, c'est de prouver que la musique est importante partout dans la société. Donc, votre témoignage, pour moi, c'est du pain béni. Hein.
Ça me fait plaisir. Merci, Lionel, et merci de m'inviter, parce que c'est très important aussi, comme on dit, il y a le savoir-faire, donc la musique pour soigner, mais il y a le faire savoir. Et ça, c'est très, très important. Et chez Musica, on est un peu moins bon, donc on a besoin aussi de gens comme vous. Vous êtes aussi du pain béni pour nous, tout simplement.
tant mieux. Mais oui, et c'est parce que, vous voyez, en France, je trouve ça, pour moi, c'est un crève-cœur de voir que, par exemple, en troisième, on arrête de faire la musique. Hein, à part ouais. C'est fini, tout ça. Et je me dis, peut-être que si nous pratiquions peut-être en amont un peu plus la musique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, peut-être que ça peut nous aider aussi à plusieurs épreuves dans la vie, dont le fait de se faire opérer, d'avoir une opération chirurgicale, etc. Peut-être que en amont, si on fait peut-être un peu plus de musique, ça, on est peut-être encore plus en phase avec Musica, on est encore plus en phase avec un musicothérapeute. Peut-être que tout ça peut aider.
Ah bah complètement, je suis intimement convaincu, tout à fait d'accord avec vous. Et c'est vrai que pour revenir sur le système éducatif scolaire, quand on voit aujourd'hui que, même de façon assez façon globale, quand on dit d'un élève, tiens, il est fort en sport et en musique, ça veut dire que quelque part, il est un peu nul dans toutes les autres matières.
Généralement.
Voilà, ça, il est bon en sport et en musique. C'est vraiment les deux matières qu'on met tout à la fin de la chaîne. Alors que dans l'éducation d'un enfant, le sport et la musique, c'est tout ce qui va construire l'homme. C'est ce qui va tout lui apprendre, le mettre dans les bonnes conditions d'aptitude à apprendre. Et pour moi, effectivement, je suis intimement convaincu que le sport et la musique, en fait, devraient passer en premier. Et c'est ce qui va permettre justement un bon développement du corps et de l'esprit et pouvoir mettre le patient justement, la personne, je veux dire, dans les super conditions pour apprendre l'histoire, pour apprendre les maths et ainsi de suite.
Oui,
et ça, c'est fondamental.
Art et sport, effectivement, ouais.
C'est dommage que ce soit pas assez tout en fin de chaîne d'éducation, alors que on est persuadé que c'est vraiment, et même les études le montrent aujourd'hui, que c'est vraiment les deux discipline les plus importantes pour l'équilibre physique et psychologique de la personne. Et ça, c'est même, on n'a rien inventé en disant ça. Les premières références, j'allais dire, qui sont pour moi scientifiques, et les plus belles références scientifiques, c'est tout simplement Platon, hein, de 2000 ans avant Jésus-Christ, dans son traité qui s'appelle La République, le plus connu. Il y a 90 pages hein, sur 400 qui sont réservées au pouvoir de la musique sous forme de discussion. Et il se pose la question à plusieurs reprises, est-ce que la gymnastique ne serait pas la médecine du corps et la musique la médecine de l'âme? Et pour moi, aujourd'hui, je réponds oui, même les études scientifiques le montrent. Et je suis très content que depuis 2019, l'activité physique adaptée est enfin prescrite et reconnue aujourd'hui en France. Et je suis sûr qu'en 2021, j'espère que la musique aussi puisse être reconnue médicalement et montrer son impact sur le système éducatif et surtout sanitaire.
Ouais, bah, en tout cas, merci. C'est exactement la conclusion idéale pour notre émission. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour vous. Merci d'avoir pris le temps, parce que je sais que vous n'avez pas que ça à faire. Vous avez beaucoup d'activités, beaucoup de rendez-vous. En tout cas, ça a été très éclairant. Et puis, bah, justement, on va suivre ça. Il y aura des tables rondes sur la douleur. Bah, on vous invitera si vous êtes d'accord. Et on essaiera de suivre cet engagement et tout ça.
Et bien, parfait. Et je serai, voilà, peut-être on se retrouve dans un an et on refera le point.
Ah ben, avec grand plaisir.
Parfait. Merci, en tout cas. Merci Lionel, merci à vous. Bravo pour votre travail.
Voilà, et merci à vous et à bientôt.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.